Il est remarquable dans la Bible que Dieu choisit des hommes qui ont fait dans leur chair l'expérience de ce qu'il va leur demander, si bien qu'il s'établit entre le serviteur et son maître une communion profonde, une communion au niveau des désirs, une communion au niveau des mécanismes, une communion au niveau du but à atteindre. Pour étudier ce problème de Moïse, enfin la vie de Moïse, toujours avec la même méthode, en mettant bout à bout ces éléments d'information, tous les éléments d'information si possible qui nous sont donnés pour en dégager une personnalité et la façon dont cette personnalité a été modelée par son maître dans un but particulier qu'on connaît, nous allons voir trois parties. D'abord, un, les traits saillants de sa vie. Deuxièmement, les étapes de sa vie. Troisièmement, sa personnalité et ses changements. Il existe trois grands problèmes de la vie de Moïse. Le premier, c'est la mort. Le deuxième, c'est l'identité, qui suis-je? Et le troisième, c'est quel est le rapport avec ma mère, quel est mon problème avec les femmes. C'est ce qu'on va voir. La vie de Moïse est jalonnée par l'expérience de la mort. La première expérience, c'est celle du coffret. Avant que Moïse ait eu conscience de quoi que ce soit, il était exposé à la mort et son enfance a été bercée par l'histoire du coffre. On t'a mis dans un coffre, tu as été exposé sur l'eau et tu as été sauvé. C'est l'histoire d'une mort et d'un salut. Son enfance est tournée autour de ça. Sinon dans la réalité de la répétition de l'histoire, mais dans l'esprit de sa mère. Sa mère a vécu son enfant comme sauvé, comme quand on récupère un enfant après une maladie, après un risque. C'était un enfant qui avait un autre sens. C'était plus l'enfant du désir, c'était l'enfant de la prière. Et ça fait une différence. La deuxième fois où Moïse va rencontrer la mort, ça va être quand il aura tué. Cette fois-ci, c'est plus la mort accidentelle, c'est la mort châtiment. Il a tué un homme et le pharaon va chercher à le faire mourir. C'était deux relations à la mort dans la société avec des hommes. Et après, il va avoir deux fois ce risque de mort devant Dieu, dans l'expérience du buisson et dans l'expérience du caravansérail. Dans l'expérience du buisson, il a failli mourir. J'ouvre pas de parenthèse, je ne fais pas d'hypothèse sur la nature du phénomène physique, parce que pourquoi est-ce que Dieu ne ferait pas appel à des phénomènes physiques et électriques quand il veut se manifester à quelqu'un? Ce qui compte, ce n'est pas la nature du phénomène, c'est son sens. Et Dieu a dit à Moïse, quitte tes sandales, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. S'il n'avait pas fait ça, il mourrait. Et l'autre expérience, c'est celle du caravansérail. Il nous est dit que Dieu le rencontra et pour échapper à la mort, il a dû faire circoncire son fils. Et là, on voit la mort d'une relation difficile avec sa femme. La femme circoncit le fils, lui lance les résultats de l'opération en lui disant « tu es un époux de sang, tu es un sanguinaire ». Mais Moïse échappe à la mort là. Le deuxième problème, c'est celui de l'identité. Moïse a dû se poser la question, comme nous la posons, vu de l'extérieur, en tout cas Freud se l'est posé, et a dit, mais qui est Moïse? Est-ce que c'est un Égyptien? Est-ce que c'est un Hébreu? Ou est-ce que c'est un Madianite? Il était né, effectivement, Hébreu. Mais il a été élevé par les Égyptiens. Si bien quand il était parmi les Égyptiens, on lui dit, tu n'es qu'un Hébreu. Et quand il était parmi les Hébreux, on disait, tu es un traître, tu fais partie des Égyptiens. Autrement dit, lui aussi, il devait se demander à qui il appartenait. Et le comble de tout cela, c'est qu'il était obligé de fuir en Madian. En Madian, il s'est marié avec une Madianite, mais il n'était pas Madianite, il était Égyptien pour les Madianites. Autrement dit, Moïse a toujours été étranger où il était. C'est le problème de l'étranger. C'est une personne qui n'a pas d'identité ethnique. Pratiquement, fondamentalement. Le troisième tressaillant de sa vie, c'est évident, c'est l'importance des femmes. Il n'y a que des femmes dans la vie de Moïse au point qu'on ne parle à peine des hommes. Quelques chapitres plus tard, on parlera de son père et de sa généalogie, on citera même le nom de sa mère. Il est né de sa mère, on parle de sa mère, qui prend l'initiative de le sauver, qui prend le risque de le sauver. Ensuite, on parle de sa sœur qui donne un petit coup de pouce pour que ça marche, que le système marche pour le sauver encore. Ensuite intervient la fille du pharaon qui dit « Élève-le pour moi ». Il est accaparé par une troisième femme. Après, et quand il est en Madian, Jéthro va lui donner une de ses filles. Ce n'est pas lui qui la demande, on la lui donne. Une des sept filles. Quelle famille? Il n'y a que des femmes là encore. Il va avoir une des sept filles, Séphora. Et on voit dans l'histoire qu'ils ne se sont pas entendus. En particulier, ils ne se sont pas entendus autour d'une conception profonde de la vie qui était pour un hébreu la circoncision. Et là, l'autre femme, encore une femme, c'est l'Éthiopienne. Enfin, Moïse a évolué, il n'avait pas les mêmes impératifs de monogamie que nous maintenant. Il a pu enfin choisir une femme dont il a eu envie, que personne ne lui a imposé ou qui se soit imposé à lui. Il s'est marié avec une Éthiopienne. C'est ce qu'il nous est dit dans le chapitre 12 des Nombres. Mais pour en arriver à ses fins, il a fallu qu'il affronte la colère de sa sœur. Sa sœur était encore là. À un âge avancé, sa sœur était encore là pour faire la loi dans son ménage. Alors, c'est tout un programme pour un homme, ça. Et Myriam en devient, qui était sa sœur, en devient lépreuse par intervention de Dieu. Enfin, c'est une sorte de... Dans son autorité sur Moïse, elle nie l'autorité du Père et de Dieu derrière tout ça. Bon, maintenant, les étapes de la vie de Moïse. On peut assez facilement la couper. Il y a d'abord jusqu'au sevrage. La première partie de la vie de Moïse aboutit par une frustration. Il est renvoyé par sa mère, c'est comme ça qu'il l'a vécu. La première étape de la vie de Moïse se traduit par un changement de mère. Sa mère le donne à une autre. La deuxième étape, c'est jusqu'au meurtre de l'Égyptien. Cette vie de Moïse, et certes on n'a pas beaucoup de renseignements sur elle, mais elle se termine par, on la sent infiltrée par la violence, la peur et la libération par la violence, le passage à l'acte. Et nous voyons que dans sa structure mentale, sa personnalité, avec quelle facilité il peut tuer un homme, il passe à l'acte. Alors nous savons, d'après la psychologie, qu'on ne passe à l'acte que dans une structure psychotique. Dans une structure normale, disons, névrotique, habituelle, la vôtre et la mienne, on souhaite tuer, on désire tuer, et on refoule ce désir de tuer, il n'en reste comme trace que de la culpabilité. On ne tue pas. C'est un désir, c'est un mythe. Mais dans la structure psychotique, on passe à l'acte. Le passage à l'acte est de type psychotique. C'est dans une structure où il y a une confusion entre la réalité et le désir, une confusion entre les deux, une confusion entre les personnes, une confusion au niveau de la mort. On tue pour tuer, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Et la confusion est quelquefois telle qu'on se tue pour tuer quelqu'un, c'est le suicide, c'est le passage à l'acte. La psychose, ce n'est pas forcément un état constant, ça peut être un état passager, une régression passagère. N'empêche que c'est quand même une structure qui apparaît chez Moïse. Moïse n'a pas une personnalité très établie à cette époque-là. Ensuite, on a la période de Moïse au désert jusqu'au buisson. On peut dire que c'est chez Madian, il fait une tentative d'adaptation à travers le mariage. Mais c'est une tentative qui n'est pas très brillante, puisqu'il avoue son échec en appelant son fils « Je suis étranger dans ce pays ». Le nom de son fils, c'est « Étranger ». Son premier fils est appelé comme ça, je crois que c'est Gershom. « De plus, sa femme lui est donnée par son beau-père. C'est Madian qui commande dans la famille. Et l'attitude de Moïse, c'est finalement d'échapper à cet ensemble de problèmes dans la solitude, et nous le voyons seul au désert où il va rencontrer Dieu. Quels vont être les résultats de cette dernière, l'époque qui va suivre? C'est la période du buisson. Il va avoir une transformation de sa personnalité, une nouvelle vision des choses, une nouvelle vision, une nouvelle notion de ce qu'est la connaissance ou le savoir, une nouvelle connaissance de soi, ou une connaissance de soi. Et à cela, Dieu va y ajouter un pouvoir, ce qu'il n'a peut-être jamais eu, et une mission. Et c'est là où on voit l'aspect thérapeutique ou l'aspect réparateur de la conversion, en image. Et tout ce qui avait manqué à Moïse avant, Dieu va lui donner. Il va lui donner dans sa peur. Mais dans sa peur, il va lui dire, tu vas aller, voilà un bâton, la baguette, la verge, c'est le pouvoir. Il dit, tu vas aller, tu parles au Pharaon, tête à tête. Et lui, il dit, j'en suis pas capable. Mais Dieu l'envoie. Et en l'envoyant, il lui donne la force de le faire. C'est là où on a une transformation de la personnalité. Et quand un chrétien se convertit, il dit, mais je suis faible, je ne peux rien faire. Et pourtant, Dieu lui dit, va et parle, va et témoigne. Et quand il nous le dit, c'est qu'on peut le faire. Et on a peut-être devant soi l'épreuve de sa faiblesse, mais en même temps, on est investi d'un pouvoir. J'ai entendu une anecdote un jour à propos de cette notion du pouvoir, d'un ami qui était arrêté en infraction dans une rue. Puis il y a un jeune agent de police qui arrive comme ça, un petit peu hésitant, et il commence à parlementer. Alors tout de suite, il a vu à qui il avait affaire, il a commencé à parlementer avec lui. Et il a dit, mais non, vous me laissez, etc., j'attends quelqu'un, et l'agent ne faisait rien. Puis derrière, il y a un collègue plus âgé qui est arrivé. Et le collègue n'a pas dit un mot, il a seulement fait ça. Et il est parti. Parce qu'il savait que ce geste-là était un geste appuyé par l'autorité qu'il avait. Et il y a des autorités qui ne trompent pas. Et quand on croit à l'autorité qui vous envoie, quand on s'appuie sur elle, on en est investi et on peut faire quelque chose. Mais si on n'y croit pas, on ne peut rien faire. On est comme le jeune agent qui ne croit pas à la puissance de son uniforme et à la puissance de l'autorité qu'il a derrière et qu'il représente. Ce n'est pas son autorité, c'est l'autorité de celui qui l'envoie. Et s'il y croit, ça marchera. S'il n'y croit pas, ça ne marchera pas. Maintenant, avec ces différents éléments historiques et caractéristiques, nous allons essayer d'esquisser la personnalité de Moïse. Moïse apparaît comme un caractère contradictoire, refoulant son agressivité. Il ne pourra manifester sa colère exceptionnellement, elle est mentionnée 4 fois à la fin de sa vie, mais elle ressort que s'il a un prétexte. C'est toujours louche. Quand vous voyez quelqu'un de doux, il est dit qu'effectivement Moïse était doux. Quand vous fréquentez quelqu'un de doux, on dit où est-ce qu'il va loger son agressivité. Méfiez-vous-en parce que les doux font des colères horribles. Et effectivement, c'était le cas de Moïse. Ils sont capables d'avoir des accès de colère brutale. C'était donc un doux qui cachait derrière beaucoup de violence. Et effectivement, un jour, il était capable de tuer un homme. Mais il l'a tué parce qu'il avait un bon prétexte. Il y a des gens qui sont obligés de susciter une querelle ou un prétexte pour sortir leur agressivité. Nous avons vu que le même problème s'était posé à propos de Lot et qui était toujours un petit peu tendu vis-à-vis d'Abraham. On a vu pourquoi, parce que c'était la figure du père, il y avait des problèmes qu'il n'avait pas réglés avec lui. Il a fallu qu'une bonne occasion se présente pour qu'il y ait une dispute et qu'il se sépare, mais il n'avait pas osé avant. Il faut un prétexte. Un prétexte pour finalement réaliser quelque chose qui chemine en lui depuis longtemps. Il n'a pas l'énergie, la force suffisante de le faire de but en blanc, de mettre les cartes sur table et d'en parler. Il attend un orage. On comprend aussi, d'après les aléas de la vie de Moïse, qu'il a eu des difficultés de relations sociales. Il avait de la peine à parler, et on le voit seul dans le désert. Et ça se manifeste par son caractère d'indépendance. Bien qu'il soit hébreu, homme de cour, on le voit berger tout seul dans le désert. En plus, la personnalité de Moïse est le résultat d'un grand nombre de déceptions, de frustrations, et des déceptions familiales. Ce petit garçon qu'une femme cède à une autre, qu'on s'échange comme ça. Et comment, quelle impression peut avoir un enfant qu'une femme donne à un autre? Est-ce qu'on l'aime assez? Pourquoi est-ce qu'on le brade comme ça? Où est l'amour? Est-ce qu'on tient à lui? C'est la réaction normale que vous avez chez les enfants, à qui les enfants adoptés, les enfants qui ont été changés de famille, de père nourricier. Et c'est une question, une interrogation dont il faut tenir compte et qu'il faut régler un jour. Et ce n'est pas insoluble, mais il faut le faire. Une déception de type ethnique. Nous avons vu que pour les Hébreux, il était égyptien parce qu'il était élevé chez le Pharaon. Pour les Égyptiens, ce n'était pas un vrai Égyptien, c'était un Hébreu. Et pour les Madianites, c'était un Égyptien. Il est reçu par personne. Et on a vu que ça se traduisait, ça s'était traduit dans sa vie, par le fait, quand il a appelé son premier enfant, j'ai été étranger dans le pays où j'ai habité. Et enfin, des déboires conjugaux. Il ne s'est pas marié avec la femme qu'il a choisie. C'est une femme qu'on lui a donnée. Et cette femme qui est madianite ne comprend pas sa mission. Quand il commence sa mission en Égypte, il la renvoie chez elle. Et quand ils vont ensemble, et puis il y a cet épisode de la circoncision avec lequel elle n'est pas d'accord. Elle trouve ça cruel, sanglant, etc. Autrement dit, elle ne croit pas à ce que croit Moïse. Et plus tard, Jéthro la ramènera, au bout de quelque temps, avec ses deux fils. Il a eu un fils en Madian, puis après un autre fils quand il était en Égypte, il lui donne le nom de ses délivrances. Une petite difficulté dans le texte, parce qu'on dit qu'il est venu avec ses deux fils de Madian. En fait, il y en a un qui est né en Égypte, puisqu'il est appelé du nom de « J'ai été délivré de la main du Pharaon ». Sa naissance a eu lieu pendant les plaies. Et malgré tout, il les renvoie à la maison maternelle pendant quelque temps. Et en fin de compte, il a donc plus tard, tardivement, avec des réticences de la famille, des critiques, l'hostilité de sa sœur, il s'est marié avec une autre femme. Il a dû garder les deux, sûrement. On voit très bien, on sent combien a pu s'accumuler dans Moïse de haine, d'agressivité, de protestation contre ce genre de vie. Parce que ce n'était pas un homme passif. Et on voit effectivement éclater sa colère. Et son grand problème, c'était comment travailler avec l'amour et la haine. Comment maîtriser l'un et l'autre. Comment se tirer d'affaire de situations si contradictoires. Aimer sa mère dont il avait une bonne expérience, mais la haïr parce qu'elle l'a jeté dehors. Avoir de la reconnaissance vis-à-vis de la femme de la fille du Pharaon, et en même temps la traiter comme une étrangère qu'elle était par rapport à son peuple, qui était persécuté par les Égyptiens. Même s'il n'était pas considéré comme peuple étranger, c'était quand même une classe sociale opprimée, à la limite. Le deuxième un élément important encore dans la vie de Moïse sur le plan affectif, c'est la difficulté de supporter les pertes et les frustrations. Nous sommes toujours menacés de l'extérieur et de l'intérieur. De l'intérieur par nos pulsions, qu'il faut maîtriser, dont il faut tenir compte, aux pulsions d'amour excessif ou de haine excessive. Et de l'extérieur, à cette époque-là surtout, par la faim, la soif, les épreuves, vous avez tous à supporter l'hostilité du milieu professionnel, il faut se battre, il faut s'insérer, il faut se trouver une situation. Et une adaptation implique une opposition au milieu extérieur et être capable de supporter cette opposition. Et on voit fréquemment, en milieu étudiant par exemple, que cette pression qui s'annonce de déboucher des études pour prendre un métier est insupportable. Et la dernière année est difficile à franchir. On échoue la dernière année où on est longtemps étudiant. Parce qu'il y a une peur. Il y a une peur d'affronter ces contraintes de l'extérieur. Cette hostilité de l'extérieur, on a vu que Moïse l'avait supporté de nombreuses fois, et pendant qu'il conduira le peuple au désert, il aura encore des oppositions fréquentes et très fortes. Bon, on ne parle pas de l'opposition du pharaon, bien sûr, mais après, à l'intérieur du peuple, il y aura les fils de Corée, il aura affronté des révoltes dures, et des oppositions, ou l'incompréhension de son frère. Et malgré toute sa patience, il se met quatre fois en colère. C'est intéressant de le voir. La première fois, c'est devant la mauvaise foi du pharaon. Il patiente une fois, deux fois, il vient, il est renvoyé, il est rappelé, il est renvoyé. Et la dernière fois, il se met en colère, c'est le chapitre 11 au verset 8. Il se mit en colère quand il quitta le pharaon. Le pharaon lui dit, « Tu ne reverras pas ma face ?» Il lui dit, « Bien sûr, je ne reverrai pas. » Et l'autre fois, c'est avec le veau d'or. Pendant qu'il était sur la montagne, Aaron fait le veau d'or, et quand Moïse descend, il se met en colère et il pulvérise ce veau d'or, casse l'étape de la loi. C'est au chapitre 32, au verset 19. Une autre fois où il se met en colère, c'est au propos de la manne. Il y avait des instructions précises sur la façon de ramasser la manne. Il y en avait pour chaque jour et pas plus. Si on en a ramassé deux jours de suite, c'était un manque de foi sur la solidité de Dieu et sa vigilance. Il se perdait. Par contre, le samedi, on n'en ramassait plus. Il fallait en ramasser deux fois la veille. On ne faisait pas ce qu'on voulait. On était soumis à des règles. Évidemment, certaines personnes voulaient en faire à leur tête. Et Moïse s'est mis en colère. Et la dernière fois où il s'est mis en colère, c'est à propos de femmes. On sait qu'après le combat avec Madian, non, avec Balaam, enfin les bénédictions de Balaam, Balaam avait suggéré à Balak qu'on pouvait se tirer d'affaire, battre Israël en le faisant pécher. Il suffisait de corrompre cette espèce de religion qu'il avait, qui le tenait séparé, qui faisait sa force. Il envoyait quelques femmes, elles séduiront le peuple, et puis vous les entraînerez au sacrifice, comme Dieu ne peut pas supporter le mélange, qu'on puisse adorer des idoles et lui, il est comme ça. Alors à ce moment-là, il maudira son peuple et vous pourrez le battre. Il y avait des femmes là-dessous, des femmes madianites. Et quand le jugement a été exercé, quand la chose a été vantée, que Moïse a exercé le jugement sur le peuple, plus tard, il a pour mission de châtier le peuple madianite. Et le peuple part en guerre, Balaam est tué dans l'opération, et le peuple revient tout fier avec des tas de femmes qu'il avait récupérées et du bétail. Et Moïse se met dans une colère noire, il dit « Mais enfin, vous n'avez rien compris à ce qui s'est passé, c'est les femmes qui vous ont fait tomber ». Les femmes, c'était dire votre incapacité de discerner ce qu'il faut choisir, de maîtriser vos instincts, mais en l'occurrence, c'était les femmes. Et il avait pour mission de détruire. C'était un jugement sur le peuple madianite. Et Moïse en savait quelque chose sur les femmes. C'est une chose qu'il avait comprise. Et il devait en conclure qu'on ne peut pas résister aux femmes. Et que si le jugement avait été donné d'exterminer le peuple, il fallait le faire, il s'est mis en colère de l'incompréhension du peuple devant ce problème-là. On peut dire que personne plus que Moïse est entré plus avant dans les problèmes du désir et de la frustration. Et on peut dire que c'est aussi pour ça qu'il a été capable, qu'il était l'une personne idéale pour sortir le peuple de l'oppression. C'était le libérateur idéal parce que lui avait à être libéré des choses fondamentales de la vie, en particulier de la toute-puissance de la femme et de ce qu'elle représente surtout sur le plan psychique. Vous avez peut-être lu le livre de Françoise Dolto, dont on parle beaucoup, L'Évangile au risque de la psychanalyse. Vous pouvez le lire, ce problème n'est pas là. Il est très critiquable par certains côtés. Mais Françoise Dolto est spécialiste des relations mère-enfant, en particulier des mères toutes puissantes, des mères abusives et des enfants dits psychotiques. En particulier des mères qui nient qui le père ou qui où il n'y a pas de père. Et la grande libération du fils, c'est de quitter sa mère, pour être indépendant. Il y a plusieurs descriptions de ce passage, de cette façon de quitter la mère abusive. Françoise Dolto prend l'expérience, la parabole, ou plutôt l'histoire de la veuve de Naïm. C'est un enterrement qui s'en va en portant le fils d'une femme unique. Et Françoise Dolto suggère que cet enfant, qui appartenait à cette femme, pour échapper à cette mère, n'avait qu'une solution, c'était de partir. Mais partir près du père. Et comme le père était mort, sa seule solution, c'était de s'identifier à un père mort, c'était de mourir. C'était ça l'explication de Dolto. Elle est séduisante parce qu'effectivement, c'est des choses qui se passent. La recherche et la fuite dans la mort, elle est très courante dans les petits-enfants, les nouveau-nés. La fuite dans la mort, le retour à un état où on n'avait pas trop de problèmes, moins de problèmes. Donc, l'expérience de libération de Moïse est passée pratiquement dans sa vie par le dépassement de la peur de la mort, par le dépassement de la domination des autres, en particulier de la toute-puissance de la femme, de la mère, ou du mauvais père, éventuellement, ce qui revient au même, et aussi une certaine libération de ce qu'on appelle en psychanalyse les pulsions partielles. Bon, là j'ouvre une parenthèse. Une pulsion partielle, c'est une façon de s'accorder du plaisir sur un mode infantile, en utilisant soit une partie de soi-même, soit un organe, soit son esprit, soit une partie de l'esprit. Et parmi les pulsions partielles, le voir, le savoir font partie. Et quelquefois même, ces pulsions partielles sont promues au niveau d'une perversion. Chez certaines personnes, savoir donne autant de plaisir qu'une vie sexuelle. Toute la vie sexuelle de certaines personnes passe dans le savoir. D'autres, au contraire, tout leur plaisir le plus intense de leur vie, le summum, c'est de voir les choses. Ces pulsions qui sont très crues au premier stade de la vie sont élaborées de façon plus fine plus tard. Le voir, ce sera devenir photographe. Du coup, on réunit deux choses, gagner sa vie et puis continuer à voir les choses. Mais c'est une pulsion partielle bien utilisée. Et ce n'est pas une perversion dans la mesure où toute la vie ne passe pas par là. Et le savoir en fait partie. C'est ce qu'on appelle en langage technique l'épistémophilie. On a toujours des mots savants pour désigner les choses. Voir, la perversion de voir, ça s'appelle la scoptophilie ou le voyeurisme. Et le savoir, c'est l'épistémophilie. Et on voit effectivement qu'une des passions de la vie de Moïse, une de ses consolations, ce sera de connaître la raison des choses. Et là, nous débouchons sur le problème du buisson. Dieu a arrêté Moïse précisément sur la grande passion de sa vie. Il a placé devant lui une énigme qui est celle d'un buisson dans lequel il y avait du feu, et pourtant le buisson ne se consumait pas. Quel est ce mystère? Comment résoudre cette contradiction? Voilà un problème à résoudre, un vrai problème au sens fondamental. Vous savez que Moïse avait été élevé à la cour du Pharaon, il avait vraisemblablement l'éducation d'un homme de l'époque, qui était à la fois philosophique, scientifique, c'était certainement un bon ingénieur de l'époque. Je ne m'étendrai pas sur les preuves qu'on peut avoir de ça, mais la façon dont il a organisé le camp et construit le temple montre qu'il c'était un bon architecte et un bon ingénieur. Il avait même sûrement beaucoup de notions d'électricité statique, les seules qu'on connaisse à l'époque. Donc quand il voit ce phénomène devant lui, il va y voir, c'est quelque chose à résoudre. Enfin, vous savez, il y a des gens qui sont avides de mots croisés, et Moïse sautait sur ce genre d'occasion, comme on va enfin avoir quelque chose à comprendre. Et justement, c'est là que Dieu l'arrête, dans sa passion favorite du savoir, et il lui dit, Moïse, il l'appelle par son nom, peut-être l'appelait-on pas souvent par son nom, et il lui dit que le lieu sur lequel il était, c'était une terre sainte, c'était pas un problème qui se résolvait comme les autres, il lui dit de se déchausser, c'était encore une façon curieuse de résoudre ce problème, et du coup, Moïse ne peut plus voir, ne veut pas voir. Et là, nous avons l'événement central de la vie de Moïse à travers une expérience personnelle de son caractère même. Il va être devant cette contradiction, comment Dieu peut-il habiter au milieu d'un buisson, étant donné sa sainteté, sa force consumante, et que le buisson soit quand même préservé. Plus tard, comment Dieu va-t-il habiter au milieu d'un peuple pécheur en restant saint et sans consumer le peuple? Et quel était le sens profond, enfin disons la répercussion personnelle, l'écho de cet événement dans l'esprit de Moïse? C'est comment faire cohabiter l'amour et la haine? C'était ça le buisson ardent dans lequel il vivait. C'est le problème de l'ambivalence. Et c'est parce que Moïse l'avait vécu profondément, qu'il l'avait projeté à l'extérieur, qu'il y avait une telle importance pour lui, qu'il va prendre un sens dans ses relations avec Dieu. Et à partir de maintenant, Moïse saura qu'on n'est pas obligé de tuer pour garder l'amour ou d'exclure la haine. Mais on n'est pas obligé de tuer surtout. On peut à la fois tuer et enfin désirer tuer et aimer, ou haïr et aimer la même personne. C'est l'acceptation d'ambivalence. Dans un premier stade de la vie, le petit enfant peut successivement haïr et aimer la même personne. Se succèdent dans sa vie des phases d'amour pour la mère, de haine pour la mère, d'amour, de haine, etc. Ça ne gêne pas. Jusqu'au moment où il perçoit cette espèce de contradiction que le même objet devient à la fois objet d'amour et de haine. Alors c'est pas possible, alors on essaie toutes sortes de trucs, y compris celui que je vous avais signalé, de projeter le mauvais à l'extérieur pour garder le bon. C'est l'organisation de la ville, c'est une façon de résoudre le problème, d'autant plus que la haine est toujours génératrice de culpabilité, ça on le sait. Donc Moïse va maintenant pouvoir admettre que les deux pulsions peuvent coexister, à condition de prendre, selon les situations, le parti de l'une contre l'autre. Et c'est pour cela que Moïse va devenir un intercesseur parfait. Toutes les fois que Dieu voudra détruire son peuple, il sera là dans la prière et sûr de gagner, parce qu'il sait que le jugement ne l'emporte pas sur la grâce. C'est ça l'expérience du buisson. C'est ce qu'il aura compris au fond de lui-même. Et c'est pour cela qu'il pourra prendre le parti de la prière et que ce sera un intercesseur constant pour le peuple. Il ira même jusqu'à dire un jour, raye-moi plutôt de ton livre, plutôt que d'exterminer le peuple. Parce qu'il savait que Dieu était sensible à cet argument-là. Parce que Dieu a une solution pour faire coexister le jugement et la grâce. Bien sûr, au-delà de cette contradiction, ce problème de l'ambivalence que tout le monde rencontre en soi, que Moïse a essayé de résoudre à l'extérieur de lui dans le buisson, que nous rencontrons avec Dieu, il y a la solution qui est le sacrifice. Comment peut-on résoudre cette contradiction? Il y a une chose difficile à admettre, difficile à comprendre dans la foi, c'est que le sacrifice de Jésus soit à la fois notre condamnation, notre fait, et en même temps notre salut. C'est ce qu'on appellera en philosophie un retournement dialectique. Nous ne sommes pas habitués à penser les choses contradictoires ensemble et comme étant solubles et restant contradictoires. Ce qui m'a paru frappant dans les exposés qu'on a eus et qui sont très classiques dans la façon d'aborder les choses, c'est de toujours tenter de résoudre les contradictions. Nous ne sommes pas obligés de résoudre les contradictions. Nous ne sommes pas, c'est pas une nécessité. Nous avons à vivre avec des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Nous sommes à la fois pétris d'amour et de haine. C'est des choses acceptées. Et que propitiation a été faite pour l'une. Et que l'amour exagéré peut aussi être canalisé et devenir un amour utile. Mais tout ça, c'est une pédagogie que nous avons à recevoir et à vivre, surtout à vivre en particulier dans l'Église. Et nous voyons que le modèle de Moïse, qui a vécu cette contradiction en prenant toujours le parti de l'amour contre la haine ou contre la violence, parce que l'amour est quand même plus fragile que la violence, il faut toujours prendre le parti de l'amour. Freud appellera ça l'instinct de vie, l'instinct de destruction, c'est un autre aspect au niveau biologique. Parce que Freud s'est surtout placé au niveau biologique et il a transposé ses modèles biologiques dans le psychique, ils sont quelquefois un petit peu justes. Donc le résultat de cette longue école de Moïse à travers la connaissance de soi, la connaissance de Dieu, la reconnaissance de l'ambivalence, vont faire de lui l'intercesseur, ensuite vont faire de lui le législateur. Il va être capable d'organiser les choses, d'admettre qu'il y ait des contradictions et de leur trouver une solution pratique. Et ensuite, il va être capable d'être prophète et voyant. Ce sera un des seuls qui saura quelle peut être la portée des pulsions, le danger de certains choix, parce qu'il les aura vécus. Et enfin, ce sera le libérateur, parce que lui a su ce que c'était d'être libéré. Libérer des contradictions, libérer des faux problèmes, libérer de l'autorité des hommes et des pulsions intérieures. Si bien que Moïse, à travers son cheminement, et surtout couronné par l'acceptation de l'ambivalence, nous donne un exemple de la maturité. Et c'est pour cela que son service a été aussi efficace et exemplaire. Non seulement il a été célèbre pour avoir donné la loi, être capable de l'avoir comprise et transmise, mais il est devenu célèbre parce qu'il a été capable de voir Dieu face à face. Et cette expérience de David, de Moïse qu'il caractérisait, nous renvoie à l'expérience de Jacob. J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été délivrée et je n'ai pas été consumée. Et l'espoir du chrétien, c'est de le voir un jour face à face, d'être capable de le voir. Et quand ce problème de l'ambivalence qui est lié à la peur du jugement est dépassé, on n'a plus peur de rencontrer son péché et de rencontrer Dieu aussi. C'est même devenu un désir, le voir lui face à face. Et c'est l'espérance qui est proposée, qui nous est proposée, qui est proposée à celui qui accepte la pédagogie de Dieu et son salut. Bien, je m'arrêterai là. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse sur les deux types de connaissances. Le premier type de connaissance que Moïse avait appris chez le Pharaon, que nous apprenons à l'université, dont nous nous servons si bien avec tant de dextérité, enfin disons d'obstination au moins, c'est la connaissance dite objective ou scientifique, et qui précisément est basé sur le voir et le savoir. Mais cette connaissance dite objective, j'entendrai pas dans sa critique au niveau de l'histoire, par exemple, puisqu'on y réfléchit beaucoup, mais comporte toujours une mise à distance de son objet. Connaître quelque chose à travers la science, c'est le mettre à distance, et surtout aseptiser le champ de connaissance de tout sentiment, de tout affect. Il n'y a plus rien, il y a un objet sans affect. Le savant, ce n'est pas quelqu'un qui doit s'émouvoir sur l'objet qu'il saisit. Par contre, dans les sciences sociales, on s'intéresse beaucoup aux affects, et c'est un objet de science, et on l'analyse même ce qu'on appelle sous forme de contre-transfert. Donc mise à distance, maîtrise de l'objet et l'exclusion des liens affectifs avec l'objet. Dans la maîtrise de l'objet, vous avez là émergé, vous voyez émerger toute la toute puissance de l'enfant. Maîtriser l'objet, c'est finalement cesser d'être soi-même objet, d'être soi-même créature pour devenir créateur. Nous avons vu ce mouvement dans le principe qui a présidé à la construction de la civilisation urbaine. C'est la recréation d'un système à l'intérieur d'un cosmos, mais d'un système organisé qu'on maîtrise, dont on connaît l'origine, dont on connaît la fin, et dont on fait les lois. Et c'est très rassurant par rapport à la mort, d'autant plus que les monuments sont toujours destinés à nous survivre, et comme le dit Malraux, c'est une façon de dépasser la mort ou de la vaincre, de vaincre dans l'art et dans l'esthétique. L'autre type de connaissance, au contraire, comme Dieu le dit à Moïse, implique la soumission et la dépendance. La reconnaissance de la hiérarchie et des différences. Dieu dit à Moïse, quitte tes sandales. Il lui dit, écoute, courbe-toi. C'est moi qui parle et c'est toi qui écoutes. Nous avons le même phénomène dans tous les appels de saints, que ce soit Samuel, quand il était petit, il a fallu qu'Élie lui dise, quand tu entendras la voix, tu diras, parle Seigneur, ton serviteur écoute. C'était cette mise dans une situation où on va apprendre quelque chose de différent. La reconnaissance de la hiérarchie, nous avons vu, c'est aussi la reconnaissance des différences de taille, des différences de sexe, des différences de poids, etc. Toutes les différences. Autrement dit, qui est la reconnaissance de sa position dans le cosmos, qui est relative. Et avec cette connaissance, cette écoute, qui est le renoncement à la toute-puissance, le renoncement à la maîtrise, aboutit à la connaissance de soi. Parce que précisément, la maîtrise et la science, c'est un moyen d'éviter de se connaître dans sa réalité. On veut se connaître comme créateur, comme maître de quelque chose, mais pas comme sujet, comme objet, ou sujet-objet dans cette relation sujet-objet. Et finalement aussi, c'est de se reconnaître comme créature mortelle. Parce que quand on renonce à la première connaissance, nous laissons se réintroduire dans la connaissance la fragilité et l'angoisse. Se reconnaître comme créature, c'est se reconnaître comme mortel, avec toute la précarité que cela comporte. Et à cette foi, à cette attente, dans le cas de Moïse, Dieu répond par le nom, il l'appelle par son nom, il lui donne une identité, il le rattache au Père, il lui donne le nom de son Père, il lui fait connaître le nom de son Père, et on sait que le nom du Père délivre d'un certain nombre de puissance infantile, d'oppression infantile. Il lui donne des compensations et des réparations, et on l'avait vu ensuite une mission et un pouvoir. Si bien que ce nouveau savoir va libérer Moïse du premier savoir, en lui permettant de dépasser ses tentatives de maîtrise de l'environnement, qui toutes étaient relatives à son sens, à son bon sens. Avoir du bon sens, comprendre les choses, c'est aussi les maîtriser. Il va admettre qu'il y a des choses qu'il ne maîtrise pas, des choses qui lui échappent. Échapper à la contradiction du savoir et du non-savoir. Cette transformation va très loin. C'est une transformation de type psychothérapique vers la maturation. Il va établir à la suite de ça de nouveaux rapports conjugaux, on l'a vu. Et ça mérite d'être vu. Cette première hostilité, cette séparation de Séphora, qui était sa femme, a pu être vaincue puisqu'il la supportera, son beau-père lui ramène. Jéthro lui ramène sa femme, on fait même un banquet pour les retrouvailles. Non seulement il accepte cette première femme, mais il va pouvoir en prendre une autre étrangère. Et chose intéressante, ce ne sera ni une Égyptienne, ni une femme hébreu, ni une Madianite, ce sera une Éthiopienne. Une femme complètement étrangère aux problèmes d'autrefois, une femme prise sans préjugés, sauf ceux de sa nouvelle connaissance, la nouvelle connaissance que Dieu lui a donnée. Ce n'est pas un homme qui va se marier, comme Lot l'avait fait, qui va ne marier qu'une partie de lui-même. Et cette nouvelle épouse, l'Éthiopienne, est le sorte de prototype de la Tsunamite qu'on trouvera dans le Cantique des Cantiques, qui est elle-même le prototype de l'Église dans sa multiplicité. Voilà.
Moi, je m'étonne que Moïse, qui était intelligent, n'ait pas recherché à retrouver son père et sa mère, ou que quelqu'un ne lui ait pas appris pourquoi ses parents ou sa mère l'avaient mis dans un coffre, justement.
Il y a deux choses. Il y a la réalité et puis l'idée qu'on s'en fait. Je pense que Moïse a dû savoir très tôt la réalité, qu'on ne pouvait pas faire autrement que de le mettre dans un coffre pour le sauver. C'est une chose. Mais il avait quand même vécu qu'on l'avait mis dans un coffre et qu'il avait failli mourir et qu'il avait échappé belle. Et que sa mère avait été obligée, peut-être par nécessité, elle l'avait quand même fait, elle l'avait donné à une autre femme. Il est impossible qu'on ne ressente pas ça comme une frustration importante. Quand un enfant perd un de ses parents jeune, on peut lui expliquer que c'est le destin, on peut lui expliquer que papa était malade ou que maman n'allait pas bien, que c'était inévitable que ça se passe. N'empêche qu'il le vit toujours comme elle m'a ou il m'a laissé tomber, il est parti. Et c'est important qu'il le vive comme ça, qu'il sente l'autre responsable de la mort ou de la disparition du père. Sinon, ce serait lui qui serait... Il faut qu'il y ait un responsable. Dans le fonctionnement d'un petit enfant, il y a tout le principe de causalité marche toujours. S'il se passe quelque chose, c'est qu'il y a un responsable. Ou bien c'est lui ou c'est moi. Comme ça ne doit pas être moi, il vaut mieux que ce soit lui. Et ça préserve le narcissisme, on peut exister. Il y a des culpabilités qu'on ne peut pas porter. Ou on peut les porter quand elles sont un peu allégées, quand elles sont aménagées, quand on est aidé à les porter. Là, je me place dans une perspective psychothérapeutique. Et justement, ce qui fait penser que Moïse a su tout ça, c'est que effectivement, le nom de son père et le nom de sa mère sont nommés, mais plus tard. Et quand, au moment de sa naissance, on dit une femme de la tribu de Lévi, un homme prit une femme, il n'y a pas leur nom. Mais plus tard, bon, il y a peut-être plusieurs récits qui sont ensemble, on nommera, sa mère s'appelait Jochabed, et puis son père s'appelait Aram. Mais justement, le fait que ces gens ne sont pas appelés par leur nom, qu'ils ne soient pas individualisés, c'est que Moïse avait en lui-même trop d'agressivité pour les accepter comme personne. Il les a vécus comme des ennemis, non pas parce qu'ils étaient réellement des ennemis, mais parce qu'ils étaient liés à de mauvaises expériences pour lui. Encore qu'il est possible que ses relations avec sa mère aient été bonnes, mais le sevrage a été dur.
Moïse a toujours joué la carte de la grâce par rapport au jugement, et pourtant Dieu ne lui a pas permis de rentrer dans le pays de Canaan. Pourtant il aurait bien voulu, enfin on voit tout au long des livres, des cinq premiers livres, que ça revient souvent cette histoire, il aurait bien voulu entrer dans le pays de Canaan. Dieu n'a pas joué le même jeu que lui a joué avec les enfants d'Israël.
Non.
Pourquoi?
Parce que Moïse était devenu quelqu'un de mieux que ça. Il y a beaucoup de choses à dire sur Moïse, puisque le complément de l'histoire est dans le Nouveau Testament. Il a demandé à entrer et surtout à voir le pays. Et finalement, Dieu a accédé. À un moment donné, Dieu lui dit, ne me parle plus de ça. Tout ça, ça s'est joué à Mériba, quand il aurait dû avoir confiance à Dieu, dont il connaissait l'efficacité, lui dire, bon, vous n'avez pas soif, mais ça va s'arranger. Je sais que moi, ça marchera. Or, il s'est mis en colère. Et quand on est en colère, on n'est jamais maître de ses mots. Ou il a dit quelque chose qu'il ne fallait pas, il a fait un discours inutile, on en fait beaucoup. Ou il a aussi frappé le rocher deux fois. Est-ce que c'était... C'est dit d'ailleurs dans un psaume, c'est redit. Si bien qu'effectivement, il ne peut pas aller jusqu'au bout de son désir. Peut-être que son désir tenait une mauvaise place. Et il nous est dit quelque part, c'est dans les chapitres 11 des Hébreux toujours, que Moïse a conduit le peuple, mais il n'est pas entré dans le pays de la promesse. Et pourtant, dans le Nouveau Testament, nous le voyons. Moïse y est bien rentré puisque nous le trouvons sur le mont de la transfiguration avec Jésus. Il y est là. Il est même en bonne compagnie. Et puis, vous savez, au lieu de regarder le pays, qu'est-ce qu'il regarde? Il cause avec Jésus. Ça n'a plus d'importance pour lui. C'est là où vous voyez une mutation des valeurs. À un certain moment de la vie, il peut dire comme le psalmiste, « Je n'ai eu de plaisir qu'en toi ». Autrement dit, peut-être que sa maturité n'était pas suffisante et le désir de voir le pays tenait trop de place dans son service. Dans le service que Dieu lui avait confié. Je pense que là, il y a un sujet de réflexion pour les chrétiens, ça. Oui, on peut aussi voir peut-être une autre dimension, que signifiait entrer dans le pays pour Moïse, ou voir le pays. Ça entrait dans toute une problématique d'un certain désir qui n'était pas celui de son service, et d'un désir de type personnel. Or, sa mission était de type collectif. Il était au service de Dieu et non pas à son service à lui. Et on peut dire qu'à un certain niveau de formation, Dieu exige davantage et donne davantage à ses serviteurs. Et dans l'expérience de Moïse, il ne lui a pas laissé avoir une sous-récompense. D'entrer dans le pays, ça aurait été peu de choses. Il nous a dit dans l'Épître aux Hébreux qu'il avait des choses de meilleures pour lui. Et peut-être justement le fait qu'il y soit rentré avec Jésus, c'était ça la récompense meilleure. Il n'y est pas rentré comme un vulgaire israélite, un des rares rescapés, ils étaient 4 ou 5 de cette génération-là. Il y est rentré avec le Fils.
Vous avez dit que Moïse était à la recherche donc de l'identité paternelle jusqu'au moment où il y a eu la rencontre avec le buisson ardent. Est-ce que vous pensez qu'à ce moment-là, à partir donc de ce moment historique en quelque sorte, il y a eu, disons, un rééquilibrage de Moïse vis-à-vis donc de ce problème qui était le sien?
Il a été capable d'affronter sa réalité intérieure, qui était celle d'être un homme ordinaire, de ne pas pouvoir bien parler, d'avoir peur, de ne pas être compétent. Finalement, tous ces doutes, il a pu les affronter là. Et je pense qu'avant, il vivait sur un mode un peu illusoire de toute puissance, en niant ça, en étant autre chose, à travers une profession, à travers une autre identité. Mais là, il peut vraiment faire un travail de descente en lui-même et de vérité vis-à-vis de lui-même. Ce qu'on ne voit pas avant. Parce qu'il était en contact avec ses pères, le nom de son père, et puis Dieu.
Si je me souviens bien de l'histoire un petit peu de Moïse, lorsque la fille du Pharaon a redonné donc à la mère de Moïse la garde, donc en vue de l'élever, il semblerait donc que le père de Moïse ait joué un rôle, disons, vraiment d'arrière-fond, alors que, pour ainsi dire, nul.
Bon, il était bien là. Je pense qu'on ne peut pas dire que Moïse était schizophrène. Le père a bien existé quelque part, mais mal. D'autant plus qu'il faut entendre la fille du Pharaon qui dit à la mère, tu l'élèveras pour moi, tu ne l'élèveras pas pour lui. Donc, quand on élève un enfant, c'est pour qu'il devienne quelque chose, tu l'élèveras pour moi. Mmh. Il y avait quand même une mainmise de la fille du Pharaon, pas ordinaire. Et je pense que ça explique que la seule façon dont, à un certain moment, Moïse ait pu se libérer, c'était de tuer l'Égyptien. Il a tué un Égyptien, il y avait une bonne raison. Enfin, il y a peut-être d'autres solutions. Là, il a vraiment tué.
Si.
Il tue ou le pharaon à travers ça, ou la mauvaise mère, on ne sait pas. Mais enfin, il est passé à l'acte pour détruire quelqu'un, éliminer quelqu'un du chemin. Et même si c'est une signification politique, pour lui, ça signifie autre chose.
Sur ce thème de la culture et un peu parallèlement à l'histoire de Moïse, il y a cette histoire finalement assez tragique du peuple d'Israël qui n'arrive pas fondamentalement à se détacher de cette culture qui lui était malgré tout étrangère, cette culture égyptienne. Et il faut qu'une génération passe, que ce soit une nouvelle génération qui n'a pas connu l'Égypte, pour que quelque chose de nouveau puisse être fait dans le cadre de la terre promise.
On peut dire que d'une certaine façon, et ça devient tout à fait intéressant, que l'expérience du peuple et le comportement du peuple vis-à-vis de l'Égypte, c'était un comportement de type maternel. Parce qu'effectivement, toutes les fois que le peuple regrette l'Égypte, il regrette ce qu'il y avait à manger. Autrement dit, c'est l'aspect nourricier de l'Égypte. Et je pense que l'expérience de Moïse vis-à-vis des mères, elle a aidé à pousser le peuple hors de cette servitude. Autrement dit, c'est son expérience de délivrance qui lui a été utile pour comprendre et mener à bien la délivrance du peuple.
Alors la suite de ma question, c'est que dans un certain sens, c'est un peu inquiétant pour nous, parce que dans quelle mesure est-ce que notre vie chrétienne peut déboucher aujourd'hui sur cette nouvelle société dont devrait être témoin l'Église? Ce qui a introduit finalement la bonne nouvelle, c'est-à-dire la notion entre autres du pardon et puis cet événement de la Pentecôte, sont des éléments nouveaux qui devraient pouvoir permettre de dépasser d'une certaine manière ce retour à la culture antérieure.
Oui, de la façon suivante, c'est que l'annonce de la bonne nouvelle nous introduit dans une nouvelle possibilité que nous ignorions avant. Pour se séparer de la mère, il faut faire l'hypothèse qu'il existe une autre possibilité. Et c'est le Père qui l'introduit, cette possibilité-là. Et si elle n'est pas suffisamment solide, suffisamment structurante, l'enfant ne veut pas quitter la relation à la mère. Pour nous, une relation à une société de consommation, que dit qu'une société de consommation, c'est une relation à une mère nourricière. Donc, il suffit de crier, on a tout, on va chez l'épicier, on a tout. Enfin, c'est ce type de relation, c'est ce modèle-là. C'était le modèle de relation du peuple d'Israël à l'Égypte. Et je crois que quand on dit que l'Égypte, c'est le monde, on n'en dit jamais assez. Enfin, c'est plus que ce qu'on en dit. Et il faut que, pour être délivré de cette relation-là, il faut que l'autre soit suffisamment vécu comme suffisante. Il faut que l'autre soit suffisante. Et pour combler ce vide que va être le sevrage. Et ça implique aussi une évolution dans l'âge, dans la maturité. Si on reste toujours dans une relation orale avec les gens, on ne peut pas accéder au stade suivant. Et la relation du peuple d'Israël était vraiment une relation très primitive, très archaïque avec les choses. Ils avaient envie de quelque chose, ils le faisaient, ils avaient des comportements magiques, enfin, exactement les comportements d'enfants, ne supportant aucune frustration, aucune règle, aucune attente. Ils ne pouvaient pas attendre. Quand Moïse était 40 jours, tout de suite, ils ont fallu qu'ils jouent à autre chose, qu'ils jouent. Le peuple se leva pour manger, le peuple mangea et se leva pour jouer. On est vraiment à un mode de fonctionnement très infantile. Parce qu'eux n'avaient pas vu, peut-être, l'appel du Père. Pour eux, ce n'était pas un Père.
Et la réponse à la question de Moïse, qu'il est rentré en terre promise, ne me convainc pas totalement. Parce que s'il n'avait pas désobéi en tapant deux fois le rocher, il serait logiquement entré en Palestine avec le peuple juif. Et rien ne prouve qu'il ne serait pas représenté dans la transfiguration avec Jésus.
Ah oui.
Bon. Et ce que je me demande maintenant, c'est que si Moïse devait être jugé à notre temps, compte tenu de son enfance et de sa situation, il aurait bénéficié des circonstances atténuantes. Parce qu'il n'a pas mené une vie normale, il a été trop tôt séparé de sa mère, de ses parents. Et toutes les fois qu'il s'est mis en colère contre le peuple, il a toujours obéi à Dieu. Et la seule fois où il a désobéi à Dieu, le châtiment a été trop grave. Alors on se demande si vraiment Dieu n'accorde pas des circonstances atténuantes compte tenu de sa situation.
Moi, oui, c'est intéressant. Mais je ne pense pas que nous soyons dans une position dite judicatoire. On ne prononce pas de jugement contre Moïse. Et il n'a pas besoin ni de notre pitié, ni de notre patronage. il est assez grand pour vivre tout seul, et comme on le trouve dans l'épître aux Romains, le serviteur de Dieu ne tombe pas ou ne se relève pas pour toi, il travaille pour son maître. C'est pas vis-à-vis de nous qu'il a à rendre compte, c'est vis-à-vis de Dieu qu'il l'a choisi, qu'il l'a appelé. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir tout ce qui, dans l'esprit, la personnalité de Moïse, l'habilitait à son service, à comprendre profondément la pensée de Dieu vis-à-vis du peuple et à comprendre l'attitude du peuple vis-à-vis de Dieu. Cette espèce de possibilité de communion dans les deux sens. Et ça nous renvoie tout à fait à cette parole à propos de Jésus, qui a dit « Il était en toute chose fait comme nous à part le péché. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités, car il était en toute chose tenté comme nous à part le péché. » Et si il a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, on n'a pas quelqu'un qui n'ait pas été apte à son service. Il a appris concrètement ce que pouvait être une condition humaine de détresse, d'isolement, d'opposition, tout ce qu'on peut imaginer. Il n'y a pas de chose qui lui soit inconnue. Et comme pour Moïse, il n'y a pas de situation aussi tendue, aussi difficile qui lui était inconnue. Toutes les situations d'oppression, de délivrance, de disette, de frustration, il les avait traversées. Et en particulier, la chose la plus difficile, qui est de maîtriser son monde intérieur. Je pense que c'est ça le problème. Ce n'est pas qu'il est mal fait, qu'il est bien fait. C'est tout ce qu'il a, toutes les facettes de son expérience qui donnent cette richesse à sa personnalité en fonction de son ministère. C'est ce que je vois. Après, je ne porte pas de jugement sur son caractère. Si j'ai parlé de sa colère, c'est pour montrer que un certain aspect de son caractère qui était toujours là. Justement en rapport avec la difficulté ou cette espèce de contrainte qu'il mettait sur lui au niveau de la colère. Pour rester bon, il étouffait la colère ou la haine. Mais ça ressurgissait, l'expérience montre que c'était là. Qu'il ait bien fait ou qu'il ait mal fait, je ne pense pas qu'on ait à s'inquiéter de ça. On peut simplement faire l'hypothèse qu'il aurait peut-être pu s'y prendre autrement. On n'en sait rien.